En fait, moi, je me définis comme paysan au sens attaché à un pays, quoi. Pas paysan au sens agricole, mais... Parce que paysan, ça a été un peu connoté... À une époque, on se faisait traiter de paysan, c'était pas très agréable, quoi. Mais moi, je trouve que c'est un mot... Ben, on parle beaucoup d'agriculture paysanne, encore, enfin, de nouveau, maintenant, et tout, et je pense que c'est un mot important. Être attaché à un pays. Un pays au sens... pas un pays au sens nation, au sens une localité, quoi. Et les anciens, ils ont ça quand ils discutent souvent. Ils disent, ils parlent, ils étaient de ce pays, mais ils parlent de la commune voisine, ils parlent pas d'un pays étranger, quoi. Mon grand-père, il avait cette espèce de passion de l'eau. Il connaissait, il a été berger toute sa vie en fait. Il a gardé les chèvres toute sa vie. Et du coup, le fait de se balader, il connaissait le territoire par cœur. Et il savait toutes les sources qu'il pouvait y avoir parce qu'il amenait un petit peu ses chèvres, puis parce que lui, il buvait un petit coup aussi à midi quand c'était le casse-croûte. Et en plus, ça a été le dernier à entretenir un canal. Donc il y a un ruisseau qui traverse la commune. Et lui, il entretenait un canal d'irrigation qui était utilisé avant les tuyaux en plastique et qui venait jusqu'au hameau en fait pour arroser tous les champs, les jardins et tout ça. Et lui, ça a été le dernier à l'entretenir. Il gardait le matin en fait jusqu'à midi. Ensuite, c'était un peu la pause jusqu'à 16h-17h. Et il ressortait les chèvres le soir. Et après la sieste et jusqu'à 16h, en fait, il allait, quand c'était le moment, au printemps, là, avant les grosses chaleurs, il allait entretenir ce canal et nous, on était gamins, on allait avec lui. Donc c'était chouette parce qu'en même temps, il nous racontait des histoires et tout. Après, l'engagement pour l'eau, c'est parce que ça m'intéresse. C'est pour ça, la gestion. Et puis, voilà, et puis, je me rends compte de l'importance que ça a, quoi. Nous, les gens ne se rendent pas compte, en fait, de la richesse qu'on a de cette source qui est à Brette et qu'on n'ait pas besoin de traiter l'eau et qu'elle est abondante. Et du coup, il faut le préserver, tout ça, quoi. Au-dessus de la vallée, il y a un synclinal qui s'appelle le plateau de la Cervelle. Et ce plateau, en fait, qui est un plateau calcaire, karstique, on va dire. Alors, le karst, c'est un terme un peu géomorphologique pour désigner toutes les formations qui sont liées au milieu calcaire, quoi. Et donc là, on est en terrain karstique. Et terrain karstique, c'est des couches de calcaire plus ou moins dures. Certaines sont perméables, c'est-à-dire qu'elles laissent passer l'eau parce qu'il y a des fissures. D'autres moins parce qu'elles sont plus riches en argile, donc elles sont plus étanches. Et c'est vrai qu'à Brette, on a la chance d'avoir une super source. Enfin, il y a une coupe de niveau qu'on retrouve un petit peu partout dans la commune qui correspond à une couche étanche. Et au-dessus de cette coupe de niveau, il y a des sources, il y a de l'eau qui sort. Et le fait que Brette, ça soit dans des couches géologiques anciennes et vieilles, l'eau, elle sort au-dessus des maisons. À Brette, il n'y a pas une maison qui a une citerne. Si on va à Oslon, par exemple, toutes les maisons, elles ont une citerne parce qu'il n'y avait pas de source abondante pour alimenter les maisons. Autour du plateau de la Cervelle, il y a deux exurgences. Donc des exurgences, en fait, c'est un endroit où il y a une grosse source, enfin une grosse source temporaire, donc alimentée très certainement par les eaux d'infiltration du plateau de la Cervelle. Et donc quand il pleut beaucoup sur le plateau ou dans les environs, ces exurgences, qui sont en fait des grottes, elles crachent de l'eau, en fait. Alors c'est pas toute l'année, c'est quelques fois dans l'année. Et autour de la Cervelle, il y en a deux importantes, parce qu'il y en a d'autres aussi, mais deux importantes, c'est l'Autonnière à Oslon et les Trois-Rannaux sur la commune de Saint-Nazaire, limitrophe avec la commune de Brette. Et en fait, les anciens, en parlant de cette grotte, ils disaient qu'elle crachait de l'eau quand c'était le vent du midi qui soufflait, pendant plusieurs jours. Et... En fait, ça, on peut trouver une explication logique à ça. Alors, souvent, le vent du midi, il amène la pluie ici. Et du coup, c'est lié, quoi. Par contre, ce qui est un peu mystérieux, c'est qu'on ne peut pas dire il a fait 3 jours de pluie et les Trois-Rannaux vont sortir. parce que d'abord, on ne sait pas la configuration des galeries qu'il y a derrière, derrière tout ce, toute cette grotte-là, parce que c'est noyé, donc personne n'y est vraiment allé très loin. Et du coup, il y a sûrement des galeries qui montent et qui redescendent. Et on ne sait pas à quel moment, par rapport au niveau de l'eau qui est à l'intérieur, ça va s'amorcer pour que la rivière se mette en action, quoi, pour que l'exurgence elle fonctionne. Donc, mais c'est sûr que c'est lié aux zones d'infiltration. Alors il y a des choses bizarres par rapport à ça, c'est que il y a des gens qui imaginent comment on connaît pas le réseau, que ça vient de très très loin, quoi, que c'est peut-être lié avec Fontaine du Vaucluse plus au sud, ou on sait pas en fait, ou à des montagnes plus loin dans les Alpes. Il y a des choses bizarres par rapport aux fontaines. D'ailleurs à Brett, on a une source qui est une très très bonne source abondante, qui n'est pas du tout calcaire. Du coup, les gens se sont imaginés qu'en fait, c'était une source qui venait de très loin, qui venait pas de la Cervelle, qui passait de sous la Cervelle, peut-être qui venait des Alpes, ou je sais pas d'où, des massifs justement qui ne sont pas calcaires, quoi. Moi, j'ai plus une formation scientifique, alors du coup, je sais très bien qu'il y a des eaux qui sont calcaires à un moment donné, et puis qui traversent des couches où elles déposent leur calcaire, et du coup, après, elles ne sont plus calcaires, quoi. Donc, ça peut s'expliquer chimiquement et physiquement. Après, moi, j'aime bien l'idée que l'eau, elle voyage, quoi. Et de toute façon, c'est ce qu'elle fait, l'eau, elle voyage. Elle s'évapore, elle retombe. Et ouais, qu'elle vienne de loin, ça me plaît bien, moi. Le gouffre de la Cervelle, moi depuis tout petit en fait, j'en ai entendu parler par mes parents en fait. Mon père qui est à la chasse et du coup il connaît le territoire au centimètre carré par cœur, quoi. Et du coup je crois que c'est lui qui m'a emmené. C'est un peu un endroit pas facile à trouver, c'est escarpé un peu pour y aller, il faut faire attention. Et c'est lui qui m'a emmené voir l'entrée, quoi, en me disant surtout il faut jamais essayer d'aller dedans et tout ça, c'est trop dangereux et tout. Bien sûr, il ne faut pas que les parents disent ça aux enfants, parce que... Et du coup, la première fois qu'on est descendu dedans, je me souviens, on avait fait ça... Je crois qu'on avait quand même une vraie corde d'alpinisme de spéléo. Mais par contre, en fait, pour remonter la corde, après, maintenant, on utilise des bloqueurs, donc c'est des appareils pour l'escalade et tout ça, mais nous, on avait fait des systèmes avec des nœuds et des ficelles de ballon, je me souviens. Il ne m'avait pas parlé de la légende à l'époque, parce que je ne sais même pas si lui... Je ne sais même pas si lui savait, parce qu'en fait la légende, moi je l'ai retrouvée après dans des écrits, quoi. C'est une légende qui a été, ouais, qui a été documentée, qui a été écrite. Du coup, il y a des traces. L'histoire pour moi, c'est que à l'époque où il y avait beaucoup de monde dans le coin, le plateau de la Cervelle là-haut, c'était un endroit communal. Et du coup, tous les habitants de la vallée qui avaient des petits troupeaux de brebis et tout ça, ils montaient leurs bêtes là-haut, ils les regroupaient. Et puis, il y avait un berger, voire plusieurs bergers, qui étaient chargés de soigner les bêtes sur le plateau. Donc, ils passaient leur été là-haut, toute l'estive. Et donc, il y avait un dénommé Gustou. Et du coup, ce berger Gustou, je ne sais pas si tu as déjà gardé des moutons, mais quand il fait bien chaud l'été, les moutons, ils chôment. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre à l'ombre des arbres et puis ils ne mangent plus, il fait trop chaud pour manger. Et donc, c'est à ce moment-là que le berger, il est un peu peinard. Il peut se balader, il peut... À l'époque, les bergers, ils allaient des fois couper des lavandes pendant ce moment-là. Ils allaient se reposer. Et Gustou, en fait, lui, c'était au moment du repas. Il avait trouvé un super endroit, donc près du gouffre de la Cervelle, pour faire son pique-nique. Parce que, en fait, en été, il y avait un espèce de courant d'air frais qui remontait du gouffre, parce que c'est une cavité souterraine. Et du coup, il était bien là au bord du gouffre à ouvrir sa musette et manger son casse-croûte. Et donc, un beau jour, il se met, comme d'habitude, au bord du gouffre. Là, il pose son bâton. Il avait un superbe bâton qui s'était fabriqué lui avec, je crois que c'était du cornouillé peut-être, ou comme bois. Et du coup, il avait sculpté et tout. Il était super fier de son bâton de berger. Donc, il mange son casse-croûte et tout ça, et puis je sais pas ce qui se passe, à un moment donné, il bouge, et puis malencontreusement, il donne un coup de pied à son bâton, le bâton glisse et tombe dans le gouffre. Alors à l'époque, maintenant on sait ce qu'il y a au fond du gouffre, mais à l'époque, personne ne savait ce qu'il y avait dans le gouffre. Et, Et du coup, le berger se dit, bon, ben, c'est foutu, j'ai pas de corde pour descendre, et puis c'est dangereux, il y a peut-être des monstres là-bas au fond, on sait pas. Et ce berger, qui était un jeune berger, il avait une amoureuse qui habitait à Cré, donc dans la vallée. Et cette amoureuse, eh ben, elle faisait comme à l'époque, elle était en train de faire sa lessive au bord de la Drôme à Cré, donc elle était allée nettoyer son linge. Et puis, elle voit un truc qui flotte sur la rivière Drôme. Elle est un peu intriguée, et puis ça passe pas très loin d'elle, et en fait, elle reconnaît le bâton de son amoureux, qui gardait les brebis sur la cervelle. Donc, ben, elle va dans la rivière, elle récupère le bâton. Donc, le temps passe, et puis quelques semaines après, Gustou, quand même, il avait bien envie de voir son amoureuse, du coup, il descend à Cré, et là, elle lui raconte ce qui s'est passé, qu'elle a trouvé son bâton dans la Drôme. Donc Gustou lui explique son histoire, qu'il était en train de pique-niquer et que le bâton est tombé dans le gouffre et que ben, du coup, sûrement, il doit y avoir un passage qui va de la Cervelle à quelque part dans la rivière Drôme ou dans la Roanne ou un de ses affluents, on ne sait pas. Et ils se disent, ben, s'il y a un passage, on va tester. Si vraiment il y a un passage, eh ben, je vais essayer de t'envoyer un agneau. Donc ben, ils se mettent d'accord et tout. Donc Gustou, il remonte garder ses brebis. Et puis, ils avaient fixé un jour pour envoyer le colis. Donc lui, il tue un agneau, il le prépare et tout, il empaquette bien. Et puis, il vient au gouffre et puis jette l'agneau dans le trou. Et puis, son amoureuse qui était toujours à Cré là-bas, eh ben, elle passait ses journées à surveiller donc, le long de la Drôme, voir si le paquet arrivait. Et puis, effectivement, quelques temps après la date convenue, eh ben, elle voit un paquet flotter sur la Drôme. Et ben, elle va le récupérer et tout. Et puis c'était bien l'agneau envoyé par Gustou. Donc voilà, le temps passe. Et un beau jour, que Gustou, c'était la fin de saison. Gustou, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu son amoureuse. Il dit quand même, j'aimerais bien la voir. Si ce passage il est aussi rapide et aussi pratique, ben je vais m'en servir. Et du coup, Gustou, il a sauté dans le gouffre un beau jour. Et puis on ne l'a jamais revu.